La première,
20h-21h le week-end,
en quête de sens.
Bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue à Libre Ensemble, comme chaque samedi soir pour 30 minutes de débat dans un rendez-vous laïque que vous propose Jacques Nizin, Catherine Axe et toute l'équipe du Centre d'Action Laïque. En Belgique, ils sont au nombre de 5, le 127 bis de Steenokerzee, le centre de Bruges, de Merksplas, de Wotem et le petit dernier dit Caricole. Ils, ce sont les centres fermés. Vous l'aurez compris, c'est le sujet de notre débat aujourd'hui. Cette semaine, le CIRE, la Ligue des Droits de l'Homme, le MRAX, Caritas et le JRS, Jesuit Refugee Service, ont rendu un rapport détaillé sur les centres fermés 10 ans après le dernier état des lieux des ONG. Quelle est la réalité des centres fermés aujourd'hui? Quelle politique de détention et d'expulsion la Belgique mène-t-elle? Quel impact au regard de la protection des droits et de la dignité humaine? Pour en parler, nous avons avec nous ce soir Caroline Intrant, co-directrice au CIRE, Coordination et Initiative pour Réfugiés et Étrangers. Tigui, venu de Guinée-Conakry, vous demandez asile pour échapper à un mariage forcé. Vous avez passé 4 mois au centre fermé de Bruges et vous êtes aujourd'hui comédienne au sein du groupe Nimis, actuellement en tournée avec le fabuleux spectacle « Ceux que j'ai rencontrés ne m'ont peut-être pas vu ». Nous avons aussi Pierre-Arnaud Perrouti, secrétaire général de la Ligue des droits de l'homme et directeur Europe et international du Centre d'Action Laïque. Et enfin, Jérôme de Faloise, comédien et membre actif du Nimis Group. Merci à tous les quatre d'être là ce soir. Toute première question pour vous, Pierre-Arnaud Perrouti, juriste de formation. Alors quand et dans quel contexte ont été créés les centres fermés et qu'est-ce qui peut aujourd'hui les différencier légalement d'une prison ?
Alors les centres fermés, ils sont apparus en Belgique à la fin des années 80, sans statut légal très clair au départ, mais le statut légal est arrivé assez rapidement ensuite. Pour enfermer des gens qui n'ont commis aucun délit. C'est ça la grosse différence par rapport aux prisons, c'est que les gens qui s'y retrouvent enfermés n'ont pas commis de délit autre que le fait de ne pas avoir de papier. Ceci dit, pour les gens qui y sont, ça ne fait pas beaucoup de différence par rapport à une prison, tant l'univers est totalement carcéral avec des barreaux, des barbelés. Parfois même pire qu'en prison, disent certains, parce qu'ils n'ont pas accès à certaines facilités, comme bêtement la télé dans les chambres, et aussi surtout peut-être l'incertitude de ne pas savoir quand on sort, puisque quand on est condamné à une peine de prison, on a un terme. Or, en centre fermé, ça peut prendre beaucoup de temps et on ne sait pas toujours quand on en sort.
En quelques chiffres aujourd'hui, je le disais en introduction, donc 5 centres, pour combien de places et combien de détenus dans ces centres vous avez quelques chiffres ?
Oui, alors les chiffres varient un peu d'une année à l'autre, mais là pour l'instant on est à un peu moins de 600 places disponibles dans ces 5 centres fermés que vous avez mentionnés, ce qui veut dire à peu près 6200 détenus par an. Donc 6200 personnes environ sont détenues chaque année par la Belgique. Et de ces 6200 détenus, on estime qu'environ 4/5, donc 80% des personnes sont effectivement expulsées. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un bon quart des gens, 20% des gens qui sont libérés au bout de la procédure et qui ont subi un traumatisme dans ces centres pour rien. Mais de toute façon, ce qu'il faut bien voir, c'est que ces 6000 détenus en centre ne représentent qu'une goutte d'eau par rapport au nombre de gens qui sont en situation irrégulière, que ce soit en Belgique ou plus largement à l'échelle européenne. Et donc, même si le gouvernement donne l'impression de se saisir d'un problème ou de régler une question, en fait, on sait très bien que ça ne sert en tout cas pas à régler le problème migratoire.
Alors, qui sont ces détenus? Est-ce qu'il y a des statuts différents? Ils sont demandeurs d'asile? Ils sont illégaux? Qui sont-ils, en fait?
Alors, il y a beaucoup de statuts différents, effectivement. Avec le temps, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de demandeurs d'asile qui sont enfermés, alors que ce sont des gens qui ont demandé une protection à laquelle ils ont droit. La Belgique s'y est engagée en vertu de conventions internationales et pourtant ils sont détenus durant le temps de traitement de leur demande d'asile, ce qui a une série de conséquences sur leur défense, parce qu'il est beaucoup plus difficile de faire valoir son dossier ou de se défendre depuis un centre fermé. On a beaucoup moins accès à un avocat, à des services sociaux d'aide.
On n'a même pas Internet, on le verra avec Tigui tout à l'heure, donc on ne peut pas non plus surfer Internet, pour se renseigner.
En fonction d'où on se trouve, il y a des centres fermés qui sont très éloignés de Bruxelles ou d'autres villes. Il y en a à Merksplas qui se trouve tout près de la frontière hollandaise. C'est vraiment la galère si vous devez y aller, que vous n'avez pas de voiture, pour les familles, pour les avocats, donc personne n'y va ou très très peu. Et donc ça impacte terriblement la manière dont les gens peuvent se défendre et faire valoir leurs droits.
Alors tout ça est légal, Caroline Intrant du CIRE, non seulement c'est légal mais c'est organisé. Vous êtes allée donc en étude depuis quelques années dans ces centres fermés. Quels sont les résultats du rapport que vous venez de dresser idée et à qui s'adresse ce rapport en fait ?
Alors c'est un rapport qui a été écrit par le groupe Transit. Le groupe Transit est un rassemblement de visiteurs en centre fermé qui sont coordonnés par le CIRE et son pendant néerlandophone. Ces visiteurs en centre fermé, ce sont des personnes qui se rendent au minimum une fois par semaine dans un centre, qui vont avoir la possibilité de rencontrer des détenus et de pouvoir les aider. C'est une aide et c'est une écoute, une aide socio-juridique, on va dire, et une écoute approfondie de leur situation. Et à partir de ces visites-là, on établit des fiches qui sont analysées et le groupe Transit en fait une sorte de compilation qui permet de faire remonter les plus grosses difficultés, les plus gros empêchements, les pratiques à la limite de la légalité, toutes les pratiques qui peuvent être problématiques en centre fermé. Et donc le rapport que nous publions, c'est un état des lieux. Un état des lieux de toutes ces pratiques et de toutes ces situations juridiquement contestables et qui fait ressortir toute une série de recommandations.
Parce que cet état des lieux est un peu alarmant. Vous pointez des choses qu'il faudrait véritablement changer. Et donc, à qui vont ces recommandations ?
Alors, ces recommandations, elles sont très générales et elles vont normalement au gouvernement. Au gouvernement fédéral qui est en charge des centres fermés pour tenter d'avoir une amélioration de la situation. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cet état des lieux, il a été écrit 10 ans après le précédent état des lieux des ONG qui, en fait, était exactement sur le même format, un état des lieux rédigé par les ONG accréditées à entrer dans les centres fermés. Et alors, en 10 ans, on s'aperçoit qu'en fait, les recommandations sont très très proches. Il n'y a quasiment rien qui a changé. C'est juste pour dire que les centres fermés, c'est un gros mastodonte qui est quasiment immuable et qui ne bouge pas beaucoup et sur lequel il est très difficile de faire évoluer les politiques et les législations.
Alors des centres fermés, Tigui, vous en avez vu, vous les avez malheureusement côtoyés quand vous êtes arrivé chez nous. Vous veniez de Guinée-Conakry, c'est bien cela. Est-ce que vous vous imaginiez, en atterrissant ici, en espérant une vie nouvelle, vous retrouver en centre fermé ? Quelles ont été vos premières impressions et qu'est-ce que vous êtes dit à ce moment-là ?
Non, je savais même pas l'existence d'abord des centres fermés et tout. Donc, l'impression qu'on a en centre fermé, vous voulez dire, c'est déshumanisant. On a l'impression de ne pas appartenir à la race humaine parce que on nous met à l'écart, soi-disant que nous n'avons pas un papier qui nous autorise à vivre sur la terre. Et là, on se pose pas mal de questions, en fait. Qu'est-ce qui se passe ?
Qu'est-ce que j'ai fait pour être là ? Comme disait Pierre Arnault, je n'ai commis aucun délit,
j'ai pas menti, j'ai pas volé. J'essaye juste de vivre en société. Et un droit que je pense avoir, étant donné que je ne suis pas un extraterrestre, je suis sur la planète Terre et qu'on me demande non.
Vous vous êtes retrouvée à Bruges pendant combien de temps ?
4 mois.
Pendant ces 4 mois-là, qu'est-ce que vous avez appris ? Comment avez-vous lutté ?
En fait, fort heureusement que je connaissais le Limis, qui m'a beaucoup soutenue dans cette période-là. Et j'ai lutté à ma façon, comme tout le monde dans ces cas-ci, mais c'est surtout se dire que voilà, je suis là et qu'est-ce que je vais faire de ce moment-ci ? Est-ce que je baisse les bras ? Est-ce que j'accepte ? Est-ce que je dis non ? C'est quand même pas possible. Alors, étant donné que j'avais le soutien de pas mal de monde, le Nimis était là, il y avait Getting the Voice, JRS aussi passait de temps en temps.
Ce sont tous des organismes qui entrent dans les centres fermés pour vous aider,
pour nous informer, nous expliquer ce qu'on peut faire, notamment comment est-ce qu'on peut s'exprimer. Moi j'ai choisi, étant donné que j'étais en projet avec le Nimis.
On va en parler dans quelques instants avec Jérôme de Falloise.
Voilà, donc J'ai choisi d'en parler, de raconter ce qui se passe, et aussi avec Getting the Voice, parce que je racontais aussi avec Getting the Voice ce qui se passait dans les centres, comment on expulse les gens, comment est-ce qu'on met les gens dans les cachots, comment est-ce qu'on les prive de leur téléphone portable, de... Des fois, je pense qu'on nous privait même du réseau parce que ça arrivait à des moments où on n'avait pas de, de réseau. Donc,
Tout est fait pour susciter la colère, pour que la frustration monte. On n'a pas de voix, on ne peut pas s'exprimer en fait.
Oui, tout est mis en œuvre en fait pour dégoûter la personne, pour que la personne se dise, j'en ai marre de toutes les façons, alors ramenez-moi. Mais c'est qu'il y a le problème est que
dégoûter de la Belgique, vous voulez
oui,
dire,
de quitter
du sol où vous êtes pour repartir,
pour
demander
repartir,
vous-même de repartir.
Oui, mais c'est qu'il y a aussi, même si tu te dis, ok, ne m'enfermez pas, je rentre volontairement, et là ça traîne. Ils traînent les pattes comme si c'était fait exprès, comme tu as demandé de partir, de te faire encore traîner pour te faire regretter d'être venu peut-être. Et si tu ne veux pas partir encore, et ça traîne là aussi, et il y a plein de réflexions. Il y a plein de réflexions. Il y avait les gardiens, certains nous disaient « Pourquoi vous ne voulez pas rentrer chez vous ?» La question là venait souvent. Chez nous. Je ne comprenais pas ce mot « chez nous ». Alors, il y a beaucoup qui réagissaient, il y a beaucoup qui disaient « Mais écoutez, chez nous, c'est ici. On vit là depuis des années. Il y en a qui vivaient depuis des années. Il y en avait qui ne venaient même pas en Belgique. En fait, ils ont juste été arrêtés à l'aéroport parce qu'ils étaient en transit. D'autres allaient en Italie. Et donc, on les a bloqués ici. Ils ont été obligés de demander l'asile. Mais ce n'était pas leur projet de départ. Et donc, voilà, on comprenait pas beaucoup de situations.
Pierre-Arnaud Perrouti, je vous donne la parole parce que vous opinez du chef. En fait, c'est cela aussi, c'est qu'on peut être arrêté et être placé en centre fermé alors qu'on a vécu ici depuis des années et qu'on a construit sa vie en quelque sorte. Comment est-ce possible ça?
Oui, bien sûr, parce que les conditions de séjour ont été extrêmement durcies par les gouvernements successifs, parce que les conditions pour le regroupement familial ont été durcies. Donc il y a des gens qui se retrouvent en centre fermé avec parfois des enfants belges en Belgique et qui sont sous le coup d'une expulsion. Mais ce qui était dit à un instant est très vrai. L'objectif principal en fait de ces centres, c'est à la fois d'adresser un message à la population en disant « Regardez, on contrôle la situation, on a les choses bien en main », et aussi d'essayer de décourager les migrants. Mais qui peut croire une seconde que ces centres vont décourager qui que ce soit, et peut-être bien effectivement de dégoûter les gens qui y sont. Et les assistants sociaux, dont tous les gens renfermés ont droit à une assistance sociale et juridique. Mais les migrants se retrouvent face à des assistants sociaux dont le boulot, c'est écrit dans la loi, dont le boulot est de préparer les gens à leur retour, quoi. Donc c'est simplement en fait leur faire passer la pilule, essayer de leur faire comprendre qu'ils n'ont aucune chance, de les décourager de manière gentille ou moins gentille en disant ton avenir n'est pas là, qu'est-ce que tu attends, il faut repartir, tu n'as aucune chance. Pas du tout de les aider dans une vraie trajectoire de vie, quoi.
Jérôme de Faloise, vous êtes comédien et vous faites partie d'un collectif qui s'appelle le Nimis Group. Vous avez rencontré Tigui et comme d'autres là-bas en centre fermé pour créer un spectacle. Et qu'est-ce qui vous a poussé à, un, aller voir dans ces centres fermés, et de deux, englober tous ces artistes, ces comédiens qui se sont formés sur le tas, qui n'étaient pas des professionnels, à les embarquer dans cette aventure avec vous?
Qu'est-ce qui nous a poussé à faire tout ça? Bon, déjà, un sentiment d'injustice profond, le fait de vouloir s'attaquer à une matière documentaire et complexe aussi, et puis on lit la presse, on est informé, et donc déjà ça. Alors, qu'est-ce qui nous a amené à aller rencontrer des demandeurs d'asile? C'est lutter contre, d'après nous, ce qui est un des principes sous-jacents majeurs, qui est de l'institution, ou je ne sais pas quoi, fait en sorte que nous ne rencontrions pas certaines personnes. Et donc, qui est cette hiérarchie entre différents types d'êtres humains, au-delà de toutes les règles qui ne sont pas respectées, mais donc il y a des gens qui ont des droits et d'autres qui n'en ont pas. Et ce sont ces sentiments d'injustice qui nous ont nourris et qui nous ont poussés à franchir les portes de centres ouverts et d'aller rencontrer ceux qui sont mis à l'écart, en fait. C'est une espèce de guerre contre la mise à l'écart qu'on a voulu mener. Et donc voilà, c'est dans ce cadre-là, au centre ouvert de Bierzec, quand Tigui était en procédure de demande d'asile, me semble-t-il, qu'on l'a rencontré, qu'on a commencé à faire du théâtre avec eux, sans se dire qu'on allait pouvoir réussir à faire un spectacle. D'abord, on va étudier, on va voir si c'est possible. Et ensuite, voilà, après coup, ça s'est fait petit à petit. Et donc voilà.
Aujourd'hui, il y a ce spectacle qui s'appelle...
Ceux que j'ai rencontrés ne m'ont peut-être pas vu.
en tournée encore cette année à Liège, à Mons, à Tournai, vous allez partir en Suisse. Et puis vous avez d'autres projets, c'est ça qui est important aussi, c'est tout ce soulèvement citoyen, entre guillemets. Vous comptez aussi aller jouer en centre fermé, prochaine
étape. C'est le rêve ultime, je ne crois pas qu'on va y arriver tout de suite. On a analysé les règles, mais donc il y a des activités qui s'y font. Et donc on doit rentrer dans des cases, et on rentrera dans les cases pour aller travailler, faire du théâtre. En tout cas, on a le premier projet, c'est celui d'aller mener un atelier en centre fermé.
Vous donnez la parole.
Un atelier de théâtre, restons sur les objectifs purs, on verra ce qui s'y passera. Et ensuite, voilà, quel est le trajet qu'on devra mener, quelle est la militance qu'on devra avoir pour réussir à faire un spectacle dans ou juste devant un centre fermé. Il y a des haut-parleurs très forts, c'est possible aussi de... Le but du jeu est de réunir de nouveau des personnes autour d'un même spectacle. Voilà. Mm-hmm. Et puis mener des ateliers, c'est déjà quelque chose. Ouais.
On vous suivra de loin ou de près. Caroline Intrant, une des aberrations de ces centres fermés, c'est bien sûr le coût humain et financier. Et finalement, à quoi servent-ils et est-ce qu'ils atteignent leurs objectifs ou pas du tout?
Mais après, ça dépend
de
quels sont
on parle.
Leurs objectifs. Effectivement, les centres fermés, c'est quelque chose qui est étudié depuis pas mal de temps par des chercheurs, des militants, des associations. Et à travers toutes ces études dans les différents centres fermés en Europe, on se rend compte que la plupart du temps, ces lieux n'ont pas véritablement pour objectif de mener une politique d'expulsion efficace, puisque rien qu'en Belgique, il y a à peu près 150 000 sans-papiers, donc 150 000 personnes qui pourraient être expulsées de façon résiduelle, et il y a environ 6 000 expulsions par an, donc on n'est pas du tout dans des proportions, et c'est la même chose que ce qu'on voit partout ailleurs. Alors, si on voulait pousser à l'extrême ces politiques-là, il faudrait construire plein de centres fermés.
Un peu partout, dans toutes les campagnes, les villes.
Voilà, consacrer beaucoup d'argent et finalement mettre en place un système qui pourrait être très, très, très inquiétant et nauséabond, puisque ça reviendrait à avoir des tas de prisons pour personnes qui n'ont pas le droit de séjour sur le territoire. Donc ça, c'est évidemment un système qu'on ne veut pas voir arriver. Mais donc, du coup, à quoi servent les centres fermés? C'est une violence symbolique qui est exercée sur les étrangers à travers les centres fermés. Et c'est une façon de faire passer au public un message par les gouvernements. Ce message, c'est celui: nous maîtrisons la situation. Nous assurons la sécurité.
Un grand coût de frais, ça coûte cher, un centre fermé.
À des coûts qui sont bien plus élevés que les centres ouverts. Évidemment, et on assure la sécurité, et en plus, tout cela dans une forme d'opacité et d'invisibilité qui renforce dans l'imaginaire la conviction que les étrangers sont des criminels et qu'on doit cacher en fait ce qu'on leur fait. Et d'ailleurs, dans la rhétorique actuelle, on entend de plus en plus se mélanger les termes d'étrangers, de criminels, d'illégaux, voire même de terroristes.
L'objectif qui n'était pas un objectif, c'est l'amalgame en fait. Là maintenant,
c'est l'amalgame qui est fait, effectivement. Et les centres fermés deviennent un outil non plus d'une politique migratoire, mais beaucoup d'une politique sécuritaire. Hier, à la commission de l'Intérieur, est passé un projet de loi qui vise à utiliser la détention et l'expulsion d'une façon accrue et à expulser d'une façon plus facile, on va dire, les personnes qui contreviennent à l'ordre public sur le territoire belge, qu'ils soient belges, qu'ils soient en situation régulière ou irrégulière. Mais l'idée, c'est de en fait utiliser cette politique migratoire d'expulsion pour sanctionner et éloigner des personnes qui seraient considérées comme des terroristes. Donc on voit bien cette immixtion permanente, et en plus, il y a beaucoup de communication politique autour de ça. On utilise de plus en plus cet amalgame.
C'est du populisme, alors on veut quand même de l'électorat.
C'est vous qui l'avez dit.
Ah oui, j'en prends l'anti-responsabilité. Pierre-Arnaud Perrouti, d'ailleurs, vous opinez du chef également.
Oui, moi je veux bien le dire aussi, pas de problème.
Quels sont aujourd'hui les recours qu'on a contre les centres fermés? Il y a une commission des plaintes qui, elle, est censée faire le lien entre les détenus de centres fermés et l'extérieur pour les défendre, soi-disant. Mais on voit qu'elle est presque, pas inexistante, mais quel est son travail?
Oui, alors il y a plusieurs types de recours possibles. Il y a des recours judiciaires contre l'enfermement. Mais là, le problème, c'est que bah déjà, si vous êtes au courant et que vous comprenez la procédure, que vous avez accès à un avocat auquel vous avez droit, mais qui n'est pas toujours désigné à temps et qui ne fait pas toujours bien son boulot, si vous franchissez toutes ces étapes-là, le tribunal qui est chargé de vérifier votre détention, en fait, ne peut se prononcer que sur la stricte légalité de la décision qui a été prise et pas sur son opportunité. Donc, voir s'il y a un risque de fuite, voir si vous êtes vraiment dangereux. Voilà. Donc, déjà, et ce recours n'est pas suspensif. Donc le temps que votre recours soit traité, ben, vous êtes toujours enfermé. Alors ça, c'est pour les recours judiciaires. Après, il y a une commission, appelée commission des plaintes, qui est effectivement censée rassembler les plaintes des gens qui sont dans les centres. Mais d'abord, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant de l'existence de cette commission. Et puis, il faut la saisir dans des conditions extrêmement restrictives. Donc je crois que c'est 5 jours après la commission des faits. Il faut que ça passe par la direction du centre, ce qui est évidemment un frein énorme. Et dans les chiffres, quand on prend un peu les chiffres de cette commission, on se rend compte en fait qu'elle est totalement indigente et pas indépendante. Le rapport mentionnait qu'en 10 ans, sur 377 plaintes déposées, seulement 9 ont été déclarées partiellement fondées. Quoi. Donc qui peut croire sérieusement qu'il n'y ait que 9 plaintes sérieusement fondées? Ça fait 2,4% en 10 ans, c'est pas sérieux. Quoi. Et il n'y a pas que nous qui le disons, des organismes comme Myria, qui est chargé qui est l'organisme gouvernemental, hein, chargé de défendre les droits des migrants, le dit aussi, cette commission est totalement indigente et doit être revue de toute urgence. Quoi.
Tigui, vous me le disiez tout à l'heure, off record, comme on dit, c'est que sur place, dans les centres fermés, on fait tout aussi pour ralentir toute forme de procédure. On ne vous donne pas les infos au bon moment, ou quand vous les avez, on vous dit bah c'était pour hier. Et tout ça fait aussi partie du jeu, je dirais.
Oui, bien sûr. Monsieur l'a signalé tantôt, en fait, les assistants sociaux qui s'y trouvent, nous, en tout cas, on a l'impression qu'ils ne sont pas là pour nous épauler, pour nous montrer la voie qu'il faut faire, mais c'est surtout nous convaincre de retourner. Et là, ils sont là, nous partez, il n'y a pas de chance. Donc, s'il y a des informations à transmettre à l'avocat, par exemple, ben, ça traîne. Oh oui, il ne répond pas, ou bien, bon, je finis ça, mais l'information ne passe pas à temps. Et après, ils se disent, non, la date est passée, alors que ce n'est même pas de la faute du détenu, mais c'est à leur niveau. Vu où on va se plaindre, on est déjà détenu, donc...
À personne. À pas grand monde. La seule petite avancée, Pierre Arnaud Perrouti, ces dernières années, c'est concernant les enfants. Et encore, ça, c'est pas bétonné.
Non, c'est pas bétonné. Suite à la condamnation de la Belgique par la Cour européenne des droits de l'homme, effectivement, pour le traitement infligé à des enfants en centre fermé et dans les expulsions, la Belgique a décidé de les sortir des centres avec les familles, de les mettre dans des accueils, dans des appartements spécifiques, des maisons d'accueil spécifiques. Mais d'une part, les familles séjournent ou les enfants séjournent quand même parfois encore pour de brèves périodes. Et puis surtout, dans les projets annoncés par le gouvernement, il est question de les ramener en centre fermé dans des logements qui sont dit adaptés. Mais on a un peu de mal à imaginer ce que peut être un logement même adapté pour des enfants. Simplement, leur place n'est absolument pas en centre fermé. Ils n'ont rien à faire là. Donc,
on imagine le traumatisme sur des adultes, alors sur des enfants.
C'est ça. Et puis après, bon, on peut dire que ce qui vaut pour les enfants, à mon avis, vaut pour les adultes aussi. Mais commencer par sortir les enfants et inscrire dans la loi que les enfants ne peuvent en aucun cas être enfermés dans ces centres serait déjà un bon début. Oui.
Caroline Intran, qu'est-ce qui se passe ailleurs en Europe? Chaque pays a ses centres fermés. Est-ce qu'il y a de nouveaux centres fermés qui se sont créés ces 2 dernières années, puisqu'on sait que la crise migratoire n'a fait que s'amplifier? Mais qu'est-ce qui se passe au niveau européen, comme action notamment?
Oui, il y a des centres fermés dans toute l'Europe. Il y a de plus en plus de centres fermés. Depuis l'adoption de la directive retour en 2008, on a vu en fait se multiplier le nombre de places en centres fermés, de centres fermés eux-mêmes, et l'allongement de la durée de la détention dans la plupart des pays européens. Alors, c'est des régimes qui vont de régimes extrêmement... précaires, avec des centres horribles au niveau des conditions matérielles. Alors les hotspots, c'est encore autre chose. Mais les centres fermés en soi, il y a vraiment, ça va aux prisons ultra high-tech où on a des ateliers de théâtre, des chouettes, mais où les gens sont enfermés pour des durées quasi illimitées. Et donc, avec une incertitude terrible dans les pays d'Europe du Nord, notamment, c'est le cas. Donc, Oui, les centres fermés, il y en a partout, il y en a de plus en plus. Et donc, effectivement, depuis mai 2015, on a vu apparaître un nouveau phénomène. C'est les hotspots, ce sont des lieux de détention qui étaient des lieux ouverts au départ et puis qui sont devenus des lieux de détention. Il y en a en Grèce et en Sicile. Et ces lieux-là sont des lieux non pas d'enfermement en vue de l'éloignement, quoique... c'est finalement devenu ça, mais c'était à l'origine des lieux de tri, des lieux où on faisait entrer des personnes à leur arrivée sur le territoire, soit grec, soit italien, et où on décidait, à partir de leur de l'évaluation de leur situation, s'ils pouvaient soit quitter et aller demander l'asile sur le territoire grec ou italien, soit demander une relocalisation dans un autre pays européen, soit être expulsé soit vers la Turquie, soit vers leur pays d'origine, en fonction donc de ça. Donc ces hotspots, ils continuent à exister. Donc aujourd'hui, c'est une situation atroce en Grèce en particulier, puisque ce sont des lieux qui n'ont pas du tout été prévus pour affronter l'hiver. Et donc les gens sont sous tente, sous la neige, dans des conditions où ils ont pas accès à l'info, ils savent pas du tout où est-ce qu'ils vont être dispatchés, et sur la base de procédures qui sont très limites au niveau du droit grec et au niveau du droit européen, puisque en Grèce en particulier, les hotspots en gros sont sous l'égide de l'accord UE-Turquie, c'est-à-dire que les personnes qui sont détenues dans les hotspots pourraient être renvoyées en Turquie, et le sont régulièrement, alors que cet accord UE-Turquie est fort, fort contesté et contestable.
Le terme même de hotspot, je me suis laissé dire, vient de la criminalité. Ce sont des lieux dangereux détectés par les polices, hein, c'est ça?
Oui, hein, c'est ce que nous disait Alessandra Capodanno de Migre Europe. Effectivement, hotspots, crime, peur, voilà. En fait, sont des lieux pour la criminalité utilisés par la police criminelle aux États-Unis, je crois.
Ça en dit long, ça en dit long. Pierre-Arnaud Perrouti, en gros, qu'est-ce que demande la Ligue des droits de l'homme, le MRAX, le et tous ces organismes qui veulent quoi? La fermeture pure et dure des centres fermés ou une pseudo-adaptation?
Non, il n'y a pas d'adaptation possible. Ce que nous disons, c'est qu'il est impossible d'avoir ces centres et de préserver les droits fondamentaux à l'intérieur de ces centres. Il faut purement et simplement les supprimer. Alors ce qu'on nous oppose systématiquement, c'est de dire oui, mais alors... quelle solution avec la migration? On ne peut pas ouvrir les frontières du jour au lendemain. Et là, il y a deux choses à dire. D'abord, c'est que... fermer ces centres, les supprimer, ne dépend pas de résoudre la question des frontières. On peut tout de suite les fermer, parce que, encore une fois, les violations sont trop importantes et il n'y a pas moyen de continuer cette politique. Par ailleurs, il faut s'attaquer à la question migratoire et à la question des frontières. Et là, bon, il y a des nuances entre les positions des associations, mais je pense qu'elles se rejoignent essentiellement sur l'ouverture des frontières, progressive, pas du jour au lendemain, par étapes, mais qu'il y a un principe de base qui est que les êtres humains doivent pouvoir avoir le droit de voyager, de s'installer où ils veulent, et qui sommes-nous, nous, pour décider que telle ou telle personne qui vit à 10 000 km de chez nous a le droit de se déplacer, de franchir une frontière ou pas. D'ailleurs, c'est un argument qu'on dit souvent aussi, la déclaration universelle des droits de l'homme permet à toute personne de quitter son pays, mais n'oblige aucun pays à l'accueillir. Donc, à part aller en haute mer internationale, vous n'avez pas beaucoup d'endroits où vous pouvez atterrir. Oui, c'est un vrai problème. Ça, mais de toute façon, même sans avoir la solution, parce qu'il n'y a pas une solution à ce phénomène migratoire, à cette crise migratoire qu'on connaît, ça n'empêche pas de fermer les centres dès demain.
De les fermer et puis de réfléchir à d'autres choses progressivement, parce que c'est important et que de toute façon, il n'y aura pas le choix. On est dans le mur, comme on dit. Un petit mot de la fin. Quelles séquelles, Tigui, on garde d'un passage en centre fermé? Ça ne prépare pas bien pour l'avenir. Et vous me disiez aussi que rien que le mot Bruges vous glace le sang, que vous n'irez jamais voir cette ville en dehors du centre fermé, vous ne l'avez pas vue. Mais voilà, c'est amer et c'est des choses lourdes qui restent.
Oui, effectivement. Moi, à Bruges, je garde un mot, franchement... Je veux pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur de Bruges, mais c'est pas de la faute de Bruges ou de quelqu'un d'autre. C'est parce que c'est une fausse image une image forte qui m'a été servie et que je ne veux pas revenir là-dessus. Alors, les centres fermés, même si j'y suis plus, mais à chaque fois que j'apprends que quelqu'un a été arrêté ou quoi que ce soit, qu'il soit à Bruges ou ailleurs, je revis constamment cette période, je revois constamment. En fait, je sais tout de suite ce que pense la personne, dans quel état d'âme cette personne s'y trouve. Et c'est souvent pénible parce que, En fait, on se dit, bon, on a passé le cap, mais non, on le passe jamais.
Allez, continuons le combat, comme on dit. Bah, c'est déjà le mot de la fin, parce que 30 minutes, ça passe très très vite. Merci à vous d'avoir été là pour nous parler de ces centres fermés, qu'il faut fermer définitivement. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de la laïcité dans Libre. Ensemble, belle soirée à tous.
Enquête de sens
sur la première.